Initiative sur Côte-Sud FM 90.3, une émission animée par Jean-Louis, le mardi de 11h à midi, la chronique bimensuelle de ceux qui font avancer notre région. Vous avez un projet? Appelez-nous au 06 88 87 13 00.
Côte-Sud FM à 90.3, une nouvelle session initiative avec Jean-Louis et ses invités du jour de l'association EG. Alors qu'est-ce que je fais? Je la fais tout de suite, Jean-Louis? Je dis
tout
non,
suite.
Ce n'est pas une association de pêcheurs, l'association EG.
Comme ça, c'est fait, on est débarrassé.
Voilà, on est débarrassé, on l'a fait. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Bernard, toujours en forme, je vois.
ça va et vous?
Ça va.
Bon.
EG, mais non, c'est pas la mer non plus. C'est l'entente des générations pour l'emploi et l'entreprise. 1982-2022, 40 ans au service des territoires. Notre expérience, votre avenir, 1800 bénévoles seniors partout en France et nous n'avons pas les 1800 aujourd'hui présentement dans nos studios, nous en avons trois. Nous avons Nicolas Villiers, Christian Daned et Jean-Marc Némon. Messieurs, bonjour.
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 Avant de poursuivre, j'aimerais d'abord que vous vous présentiez, que vous me disiez qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, en face de moi, Nicolas.
Voilà. Alors, c'est Villers et pas Villiers, mais enfin, ça, c'est...
J'ai dit oh là là.
Non, mais c'est, j'ai non, mais ça n'a aucune importance, j'ai l'habitude depuis très très longtemps.
non, d'autant plus que tout à l'heure, nous parlions de Claude Villers.
Ouais. Oui.
Et on se demandait si vous faisiez partie de la famille, et donc je
non.
sais très bien que ce n'est pas Villiers, excusez-moi.
Non, mais ça n'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc, effectivement, je fais partie de cette association maintenant depuis 5 ou 6 ans. J'ai le plaisir depuis cette année en être ce qu'on appelle le délégué territorial, puisque nous couvrons à la fois le Pays Basque et les Landes. Si je fais rapidement, avant de parler plus avant de l'association par elle-même, en ce qui me concerne mon parcours et pourquoi je suis rentré à l'EG, c'est que j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le monde automobile, chez un grand constructeur automobile, et j'ai poursuivi cette carrière essentiellement dans le monde du conseil, où j'ai travaillé de nombreuses années pour des grands groupes américains ou français. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde et de faire des choses très très différentes. Et c'est vrai qu'en arrivant à la retraite, j'avais pas envie d'arrêter. Et j'ai rencontré des garçons qui faisaient déjà partie de cette association et qui m'en ont parlé. Et je me suis dit que, quitte à continuer une activité, bien autant le faire avec EG, parce que c'était, à mon avis, plein d'intérêt, et pour moi, et pour les autres. Donc voilà, rapidement,
qui
je suis. Vous
donniez quel type de conseil?
C'était du conseil en entreprise et un conseil un petit peu particulier qui fonctionne particulièrement bien en ce moment, qui est ce qu'on appelle l'expérience client, c'est-à-dire la façon dont une entreprise se positionne vis-à-vis de ses clients dans un réseau, que ce soit dans l'automobile, dans le luxe, où que ce soit. C'est l'importance de faire en sorte qu'un client qui rentre dans un point de vente en sorte satisfait à tous les niveaux.
Il y a du boulot là des fois.
Il y a beaucoup de travail, mais en fait, ça se passe mieux qu'on ne veut bien le croire, grâce évidemment aux conseils que nous donnions.
Voilà, bien, il sait en parler, hein. C'est pour ça aussi peut-être qu'il est un des responsables. Christian Daned, bonjour.
Oui, bonjour. Alors moi j'ai un parcours un peu différent, donc il y a 4 ans que je suis dans l'association EGE, donc je suis implanté à Anglette. J'y suis venu au moment de la retraite. Donc j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait toute ma carrière dans le domaine défense. Et donc, effectivement, quand je suis arrivé, un peu comme Nicolas, arrivé à la retraite, on n'a pas envie d'être inutile, entre guillemets. Et donc, j'ai frappé à la porte de EGE. Donc, moi, j'avais circulé un peu partout en France. Et donc, pour ma carrière professionnelle, j'ai eu la chance aussi de pas mal travailler à l'étranger sur des offres dans le domaine défense, où j'ai eu, par exemple, à évaluer des sociétés industrielles pour des projets en coopération. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse chez EGE, c'est notamment la notion de mentorat, c'est-à-dire accompagner des jeunes ou des moins jeunes dans leur parcours, que ce soit, on en parlera après, dans l'éducation, l'entreprise, ou pour des gens qui ont besoin de revenir à l'emploi après des parcours difficiles. Et c'est de les aider à avoir un œil indépendants, entre guillemets, sur leur leur situation, leur parcours, etc. Donc cette notion de mentorat m'intéresse beaucoup.
Merci Christian. Jean-Marc.
Alors, j'ai un DUT technique de commercialisation. J'ai travaillé pendant 42 ans, donc, puisque je suis à la retraite, dans deux grandes entreprises principalement. Je suis un homme de terrain, c'est-à-dire je prenais ma voiture tous les matins et j'allais voir mes petits clients dans des secteurs qui ont démarré sur 14 ou 15 départements et j'ai terminé sur un département et demi. Idem avec mes deux collègues, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à la retraite, j'ai pas voulu rester inutile et les bras croisés. Donc j'ai, sur les conseils d'une amie, je suis rentré chez EG, à Bordeaux d'abord, et puis 6 mois après, ici sur la région des Landes. Voilà. Et au sein de EG, dans la délégation, je m'occupe plus particulièrement de la section, de la partie éducation.
Alors, vous êtes, messieurs, vous êtes combien sur le secteur ?
Alors, en ce qui concerne notre délégation de territoire, nous sommes 13 à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui peut fluctuer parce qu'on a en permanence, et c'est tout à fait normal, des entrées et des sorties. Des sorties parce qu'il suffit que l'un d'entre nous décide d'aller habiter ailleurs. Il continuera peut-être à travailler avec EG, mais dans un autre territoire. Et des arrivées parce que, par exemple, une émission comme celle d'aujourd'hui peut créer ou susciter des vocations. C'est vraiment très important parce que pour faire tout ce que l'on fait, on a besoin effectivement d'avoir des conseillers, d'autant plus que, comme tout le monde le sait ici, les Landes et le Pays Basque, ce sont des vastes territoires, donc beaucoup de kilomètres à couvrir, et on ne peut pas avoir uniquement des conseillers qui sont centralisés sur un point particulier, que ce soit Bayonne ou Dax par exemple. Donc aujourd'hui nous sommes 13, mais nous sommes bien sûr en phase de recrutement permanent. Hommes et femmes, bien évidemment.
Bien évidemment. Moi, j'avais noté qu'il y avait 13 délégations en France. Ce sont des délégations régionales.
Oui, tout c'est à ça. Fait. Tout c'est à ça. Fait. On a une structure qui est une structure absolument classique, qui est quasiment une structure d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un national, ensuite il y a des régions, et au sein des régions, il y a des territoires. Donc, et on se réunit très régulièrement pour faire le point, y compris dans des fameuses grandes messes nationales qui sont à Paris, bien évidemment.
Oui. Toujours à Paris. Je disais tout à l'heure 1800 bénévoles partout sur tout le territoire français. Vous arrivez à croiser les infos, vous arrivez à vous connaître peut-être à l'occasion justement de ces grandes messes.
Jean-Marc, toi qui es un ancien, c'est ce que je veux dire.
Ben oui, des trois qui sont présents autour de ces micros, là, je suis le plus ancien, enfin chez EG toujours. Effectivement, on se rencontre alors soit au niveau de la région déjà, puisqu'on est copié-collé sur les régions administratives françaises. Donc on a une délégation régionale à Bordeaux, d'accord. La première... Le premier lieu de rencontre, c'est effectivement Bordeaux, où on rejoint toutes les délégations de l'Aquitaine. Et puis après, bon, effectivement, une fois par an ou deux, il y a des réunions au niveau parisien, quoi.
Voilà. On a tous évidemment connu ces 2 ans de Covid qui n'ont pas été des moments très agréables. En revanche, ils nous ont permis de découvrir quelque chose qui sont les fameuses réunions Zoom, qui ont un avantage, c'est que lorsque par exemple nous voulons discuter avec nos camarades de Pau, même si nous ne sommes pas très loin, c'est effectivement de temps en temps plus facile d'être en réunion par Internet que de se voir, ça prend moins de temps. Donc pour nous, ce fameux Zoom a été d'une certaine façon bénéfique aussi.
Christian.
Oui, en dehors de ça, donc il y a des occasions de se former sur certains sujets ou de travailler en groupe. Par exemple, moi j'ai participé à un travail sur la rénovation de la communication entre guillemets de l'association. Donc ce qui m'a permis de côtoyer des gens qui étaient dans la France entière, en fait, dans Occitanie, à Bordeaux, dans les régions nord, etc. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que pour être ancien, on utilise aussi les réseaux sociaux. Et par exemple, moi, j'utilise pas mal LinkedIn. Et donc, j'ai pas mal d'échanges avec des membres de l'association au travers du réseau LinkedIn, par exemple.
Alors, c'est bien que vous en parliez, parce que j'avais noté effectivement que votre site, d'ailleurs qui est particulièrement bien fait, votre site, il y a eu l'année dernière 50 000 visiteurs, il y a eu 116 000 pages visitées, et en plus, avec les autres réseaux sociaux, 160 000 lectures. C'est énorme quand même, parce que vous ne faites pas dans le tagada sans soin, quoi. Hein. C'est, voilà, on y va pour bosser, quoi, pour apprendre des choses. Donc il y a quand même une forte demande.
Il y a une forte demande, il y a une forte demande des deux côtés. Il y a à la fois tous les gens qui sont en pré-retraite ou à la retraite, qui se posent évidemment la question « que vais-je faire une fois mes activités professionnelles terminées ?» Et de l'autre côté, compte tenu du type d'activité que nous avons, il y a une forte demande, que ce soit des jeunes, des entrepreneurs, des lycées, pour avoir des bénévoles. Mais les bénévoles, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et sans le monde associatif, il y a beaucoup de choses qui ne pourraient pas se faire. Donc nous nous sentons à la fois responsables et utiles.
J'ai noté au niveau national 17 830 interventions, dont 1500 en appui aux entreprises en difficulté. Et vous avez également, vous avez été présent dans plus de 900 établissements en France, chez les lycéens, les étudiants, collégiens, apprentis, etc. Comment ça se décline au niveau local sur votre circonscription, sur votre délégation ici ? Christian.
Alors d'abord, EGE dans les Landes a un passé assez important. Donc, par exemple, il y avait une tradition d'intervention dans des lycées techniques dans les Landes. Et donc, on essaie de renouveler ça et de l'entretenir, d'entretenir cette fidélisation avec les lycées. Sur le domaine entreprise, donc, il y a quelque chose qui se met en place au travers de ce qu'on appelle les groupements agréés d'intervention, donc les GPA, qui donc dans le cadre d'un partenariat avec la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, où par exemple nous aidons des entrepreneurs en difficulté. Et ça, c'est peut-être nouveau justement au travers de la crise qu'on vient de traverser. Donc cette demande est particulièrement importante pour ne pas laisser des entrepreneurs isolés dans leurs difficultés. Au-delà de ça, on a une démarche active aussi de faire connaître nos activités. Par exemple, dans le domaine, dans la région BAB, Bayonne, Anglette, Biarritz, on a été proactif, entre guillemets, pour se faire connaître, y compris dans des écoles d'ingénieurs, là où on ne nous voyait pas spécialement à l'origine. Et donc, on a des activités nouvelles dans ce cadre-là, par exemple. Donc c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose où nous-mêmes on a besoin d'être proactifs, comme dans une entreprise on a besoin de faire un effort commercial entre guillemets. Bon ben c'est notre effort commercial de se faire connaître un peu partout et dans différents secteurs.
Et j'ajouterais que nous sommes actifs directement, mais nous sommes aussi actifs au travers d'autres associations qui nous utilisent, dans le bon sens du terme, parce qu'elles n'ont pas forcément ni les ressources ni les compétences. Dans certains cas, je pense qu'on en parlera parce que c'est intéressant, mais que ce soit au niveau des entreprises ou que ce soit au niveau de l'éducation, on fait des choses avec d'autres assos et ça fonctionne plutôt bien parce que c'est vraiment du partenariat.
Ça marche bien avec l'éducation nationale ?
Oui. Il y a un grand silence quand même.
Oui.
Alors, j'interviens parce que bon, c'est moi qui... c'est mon bébé, l'éducation. D'accord. Au niveau de la délégation.
Nous sommes avec Jean-Marc.
Oui, pardon. C'est un peu mon bébé parce que j'aime bien cette partie-là, l'éducation. Effectivement, on intervient plutôt dans des lycées privés ou des MFR, que l'on connaît bien ici dans la région. Un peu moins dans des lycées, je dirais, intégrés à 100% à l'éducation nationale, pour diverses raisons. Bon, je ne les citerai pas, mais là où on intervient dans les lycées, on s'occupe donc de jeunes qui sont soit en BTS, soit en bac pro, Et on leur fait des formations en deux temps. Le premier temps, c'est une formation sur tout ce qui concerne les curriculum vitae et les lettres de motivation. Et en deuxième temps, on s'occupe de leur faire faire des simulations d'entretien d'embauche. Donc, pour info, quand même, c'est une grosse partie de notre activité ici sur le territoire Pays Basque-Land. Sauf, hélas, depuis deux ans où Covid oblige, on est peu intervenu. Mais sinon, on intervient dans, je crois, six ou sept lycées entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.
Et si je puis me permettre, je rajoute quelque chose, c'est que effectivement, là, nous sommes vraiment complémentaires avec l'éducation nationale parce que ce soit des bacs pro, que ce soit des secondes, parce qu'on a aussi intervenu sur des secondes, ou des BTS, et c'est tout à fait normal parce que ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale, ces jeunes n'ont absolument aucune idée de la façon dont on rédige une lettre de motivation ou un QL comme vité, et encore moins comment un entretien d'embauche peut se passer. Ça n'est pas le rôle des professeurs de le faire, donc on peut faire appel à nous, et on s'aperçoit, et c'est ça qui nous fait quand même très plaisir, c'est qu'après ces sessions, les élèves viennent nous voir en disant bah, « j'ai appris plein de choses, ça m'a été utile ». Et cette notion pour des bénévoles, d'avoir ce mot de « vous nous avez été utile », bah, c'est notre récompense, c'est notre salaire.
C'est le salaire non imposable.
Non imposable.
Et juste, oui, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on est très complémentaires en fait, par rapport au personnel de l'éducation nationale. Parce qu'on a fait toute notre carrière en entreprise. On a été manager, recruteur, employé. Et donc, on a toute légitimité en fait, pour essayer de faire comprendre l'entreprise, se mettre à la place d'un recruteur et en situation, par exemple, d'embauche vis-à-vis d'élèves qui vont connaître cette épreuve. Quoi.
Oui, c'est sûr que là, quand vous vous présentez devant des jeunes de 18, 19, 20 ans, ils sont complètement vierges en ce qui concerne effectivement la découverte de l'entreprise. Exactement. Le fait de savoir que le CV, il faut qu'il y ait des mots clés dans une lettre de motivation. Si elle est mal foutue, elle part immédiatement, j'imagine, malheureusement, à la corbeille, pour ne pas employer le mot poubelle. Et donc, vous êtes là, effectivement, pour qu'il y ait c'est même plus qu'un déclic. C'est leur dire attention, on ne vit pas dans un monde de bisounours et il va falloir vous vendre comme il faut, même si le terme n'est pas bien beau. Quoi.
Non, mais c'est, approcher c'est la situation réelle, en fait.
C'est ça, ouais, c'est ouais. Ça. Être vraiment dans du concret. Quoi.
Et c'est vrai que quand on les voit, ils sont quand même au début extrêmement désarçonnés. Parce que pour eux, c'est un territoire vierge. Ne nous le cachons pas, quand on nous présente des exemples de CV ou de lettres de motivation qui ont été faites directement par eux, vous parliez de corbeille ou de poubelle, effectivement, c'est 99,9% qui partiraient. Parce que, et on ne peut pas leur en vouloir, c'est qu'on ne leur a pas appris et ils n'ont pas les codes. Et notre rôle, c'est d'essayer de les aider à avoir un code de la même façon en ce qui concerne des entretiens de recrutement. Il y a une attitude, un savoir-faire, un savoir-être qu'ils n'ont pas. Ça s'apprend et c'est normal.
Vous parliez tout à l'heure de travailler en synergie avec d'autres associations, d'autres structures. J'imagine que dans ce que nous venons de parler, là, j'imagine que Pôle emploi bosse avec vous. Ou du moins, vous avez des échanges avec Pôle emploi.
Oui, bien sûr. Mais par contre, il y a plein d'autres domaines. Par exemple, au niveau national, on a signé un accord de partenariat avec l'AFPA. Et donc, depuis cette année, on intervient, par exemple, à Bayonne, à Mont-Marsan, etc. Donc, pour justement donner des outils, contribuer à former un peu les personnes qui doivent revenir à l'emploi en ayant beaucoup d'interrogations, de difficultés, et donc pour leur aider à passer un peu justement le cap de ces difficultés.
L'AFPA, c'est un cas qui est vraiment très intéressant parce que c'est quelque chose, comme le dit Christian, qu'on a mis en place ce partenariat, convention, depuis cette année. L'AFPA, c'est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Et en fait, depuis cette année, il y a une nouvelle mission pour l'AFPA qui est de s'occuper de ce qu'on appelle les jeunes décrocheurs. Ce sont donc des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans et qui sont sortis du système scolaire et qui se retrouvent sans rien. En plus de ça, ce sont des jeunes qui ont des parcours personnels souvent très difficiles. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est pas forcément évident pour eux. Et l'AFPA a demandé à EG de créer deux modules. Un module qui s'appelle Estime et Confiance en soi. Et un autre module qui est celui du retour vers l'éducation, que ce soit par rapport à des stages, etc. Et donc, on s'occupe de ces jeunes. Pour nous aussi, c'est une expérience très particulière parce que dans nos entreprises, on a eu quand même tendance à engager des gens qui étaient plutôt bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Et donc, ça n'est pas une population qu'on connaît forcément très bien. Et c'est à nous de savoir s'adapter. Et c'est tout à fait passionnant. Moi, j'y passe beaucoup de temps parce que ça m'intéresse énormément. Et puis l'autre partie, c'est ce qu'on appelle prépa compétences. Et prépa compétences, ce sont les jeunes adultes qui, parce qu'ils ont fait un burn-out, parce qu'ils veulent changer de vie, ont besoin de conseils, là aussi, pour faire autre chose et savoir comment le faire. Donc, il y a vraiment des choses qui sont tout à fait passionnantes.
Pour l'emploi et l'entreprise, EG, Jean-Marc Némon, Christian Daned et Nicolas Villet. Je vais pas y arriver, Villers, c'est pas possible. Il faut que je pense à Claude. Oui, Nicolas, voilà. Villers, voilà. Donc, je disais tout à l'heure, 1800 bénévoles seniors partout en France, 13 délégations, un réseau de solidarité. Et si je prends mes chiffres par rapport au rapport d'activité 2019-2020 au niveau national, les chiffres sont un peu moins importants, bien sûr, en 2020, Covid oblige. Mais malgré tout, les grandes tendances y sont toujours à peu près. 75 000 élèves et étudiants seniors, 16 500 demandeurs d'emploi accompagnés, 15 400 entrepreneurs conseillés. L'éducation représente 41%, l'entreprise 40%, l'emploi 19%. Et je disais tout à l'heure, 17 830 interventions partout dans toute la France, dans 900 dans les établissements et 1500 en appui aux entreprises en difficulté. Comment vous faites, messieurs, pour vous partager le travail ?
Et on essaye. Voilà. Déjà. Déjà, on essaye. Ça va être assez simple. C'est, à la base, c'est une question d'envie. C'est-à-dire et de sensibilité. Parmi nous tous, certains se sentent plus une fibre éducation, ce qui est par exemple le cas de Jean-Marc. D'autres seront plus intéressés par l'entreprise parce qu'ils ont eux-mêmes un parcours professionnel extrêmement tourné vers l'entreprise. L'employabilité pour d'autres. Donc déjà, naturellement, on se fait quelque chose de tout bête. On se fait un schéma en disant, toi, qu'est-ce qui t'intéresse ? Toi, qui t'intéresse ? Et donc, on part de là. Après, chacun se dit, tiens, ce serait peut-être pas inintéressant que j'aille voir comment ça se passe sur un autre domaine. Est-ce que finalement, je ne pourrais pas y être utile ou trouver quelque chose qui m'intéresserait ? Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est de façon extrêmement pragmatique.
Et on peut aussi changer dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai passé toute ma vie en entreprise, donc j'étais plutôt destiné à m'occuper du secteur entrepreneur. Et puis finalement, j'ai basculé, parce que j'y ai trouvé de l'intérêt, vers le domaine éducation, par exemple. Donc, c'est pas quelque chose de figé, comme le dit Nicolas. C'est en fonction de l'envie, des opportunités, etc. Quoi.
Et pareil pour moi, puisque je suis plutôt éducation. Mais je m'occupe aussi de suivre des créateurs d'entreprises. Donc c'est en général, c'est une personne ou deux maximum, avec l'aide d'un autre bénévole qui s'appelle Alain. Parce que bon, je n'ai pas l'expérience de ce genre de choses, mais ça m'a quand même très, très, très attiré. Donc j'ai dit, je vais y mettre le nez dedans, je vais voir ce que ça donne. Quoi. Est-ce que je suis capable de faire ? Et puis ça m'intéresse, donc je vais le faire.
Alors, par exemple, pour être concret, là, on va rester donc avec Jean-Marc quelques minutes. Vous êtes avec un jeune, ou pas jeune d'ailleurs, créateur d'entreprise, hein, qui veut créer une entreprise. Oui. Vous l'aidez en quoi ? Est-ce qu'il est déjà formé en termes de, je sais pas moi, de commerce par exemple ? Est-ce qu'il est formé pour la comptabilité ou du moins pour faire au moins sa comptabilité à lui ?
Alors en fait, on travaillait surtout en association avec, comme disait Nicolas tout à l'heure, avec par exemple Initiative Land, qui s'occupe de suivre des entrepreneurs. Et on joue le rôle, entre guillemets, si vous voulez, on joue le rôle de parrain. C'est-à-dire on est censé les suivre pendant un certain nombre d'années, c'est 3 ans. Et quand ils ont besoin, ils font appel à nous. Alors ils peuvent...
Ils ont besoin de quoi ?
Alors, mais de tout. De gestion, de connaissances informatiques, de tout ce qui concerne la vie et la création et la pérennité de leur entreprise à partir du moment où ils l'ont créée. Donc on est là pour leur filer un coup de main derrière s'ils ont, eux, quelques lacunes.
Non, mais en fait, les cas sont extrêmement variés. Voilà. Ça peut aller du jeune qui a une idée de création d'un... Enfin, qui a une idée de projet, qui veut créer son entreprise, mais qui a des connaissances assez sommaires, y compris en gestion. Et par exemple, quand on va lui parler de business plan, il va fuir. Bon, mais sans parler de grands mots, entre guillemets, mettre noir sur blanc quand même un peu ses prévisions d'activité, les traduire en prévisions financières, etc. C'est quand même un incontournable si on veut créer un projet et assurer sa pérennité. Bon. Mais en fait, les cas sont très variables. Si on va vers les entrepreneurs en situation de difficulté, bon, ils ont fait un premier parcours, ils savent gérer leur entreprise, etc. À un moment donné, par contre, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les aide à sortir du nez dans le guidon, entre guillemets, et avoir un œil extérieur pour porter une autre vue sur leur situation qu'eux-mêmes, quoi. Donc, en fait, c'est très variable.
Et c'est là où, en fait, on a une double casquette, enfin une double casquette, une double activité. Par exemple, Jean-Marc lui parlait de ce que nous faisons avec Initiative Land. Initiative Land, il faut comprendre que les jeunes entrepreneurs dont on parle, ce sont des gens quand même qui ont déjà eu un prêt financier. C'est-à-dire que Initiative Land va faire un prêt d'honneur à ces personnes. Donc il y a déjà un dossier qui a été monté, structuré, de telle façon à ce que, à partir du moment où on parle d'argent, il est évident que Initiative Land ne distribue pas de l'argent comme ça. Et le tout doit être forcément adossé à un prêt bancaire. Donc nous arrivons après, une fois que le prêt a été débloqué, et nous essayons de voir avec cet entrepreneur là où il a besoin de nous. Il y en a qui vont être excellents en gestion, mais en marketing, alors même si on utilise des grands mots, parce que c'est des entreprises d'une, deux ou trois personnes maximum, mais bon, en termes de communication, enfin, il y a plein de domaines dans lesquels on peut intervenir, mais pas tous. On n'a pas besoin de nous sur tous les domaines. En revanche, Christian lui parlait d'une autre activité qui sont les entreprises qui sont en difficulté. Ça peut être simplement des difficultés psychologiques. Je veux dire, quand vous êtes un chef d'entreprise, ce qui a été mon cas d'une petite entreprise, vous êtes quand même tout seul à la barre. Et il y a un moment où vous ne pouvez pas parler forcément à vos collaborateurs, vous n'allez pas leur dire que vous êtes dans le stress, etc. Enfin, logiquement, ça ne se fait pas. Donc, avoir quelqu'un avec qui on peut discuter de divers sujets et on peut lui redonner confiance en lui, ou lui dire, attention, là je pense qu'il faudrait gna 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 gna, et on a d'autres personnes chez EG qui sont plutôt spécialisées. Donc voilà, c'est comme le dit Christian, c'est un panel qui est extrêmement vaste.
Alors vous êtes bénévole, c'est-à-dire que vous n'êtes pas rémunéré pour faire cela, mais est-ce que votre structure, elle, perçoit des fonds directement de ces personnes, même si c'est symbolique, quand vous leur donnez un coup de main, ou est-ce que c'est entièrement gratuit ?
Alors, bon, les cas sont variables. Nous, déjà, en termes de conseillers, nous, on n'est pas payés, évidemment.
Ça, c'est clair.
Donc, on se fait rembourser nos frais. Donc, l'association a des frais. Dans certains accords, par exemple, avec Initiative Land, Initiative Pays de Galles, France Active, etc., bon, en général, il y a des accords qui font que nos frais sont couverts. Mais pour l'intéressé lui-même, il n'y a aucune contribution, quoi. Maintenant, ça peut aller alors, sur des gros projets. Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner un projet... Bon, qui a été interrompu malheureusement avec le Covid, mais qui aurait pu être un gros projet. Et là, on aurait demandé une contribution minimum à l'entrepreneur. Bon. Mais en règle générale, ce n'est pas la personne qui fait appel à l'association qui a quelque chose à payer, entre guillemets.
Et est-ce que parfois vous êtes amené à faire des études de marché pour pouvoir justement donner un coup de main à une personne qui a des doutes sur le développement de son entreprise, par exemple ?
Bon, on peut faire, enfin, généralement, on ne fait pas l'étude de marché nous-mêmes, mais dans le cas du projet dont je vous parlais, il y avait une étude de marché. Moi, j'ai porté un jugement, entre guillemets, enfin, une évaluation sur ce qui était produit en disant, bon, là, ça me semble un peu trop juste, etc. Donc, mener de bout en bout une étude de marché, en général, non, mais porter une aide à la réalisation, à la robustification, entre guillemets, d'une étude de marché, oui.
On a plus un œil de conseiller, c'est notre titre, qu'autre chose, parce que une étude de marché, voilà, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et tout le monde sait qu'une étude de marché, ça coûte cher. Donc c'est pas, nous n'avons pas les ressources pour le faire. En revanche, quand une fois qu'une étude de marché a été faite, que nous donnions notre avis ex-professionnel, si je puis dire, oui, bien sûr. Mais on va utiliser des outils qui ont été déjà mis en place, mis à la disposition de ce chef d'entreprise, par exemple, ou de ce jeune entrepreneur, pour l'aider, effectivement, avec un œil extérieur, et souvent un œil extérieur à une vision plus 360 que lorsque l'on est le nez dans le guidon.
Alors, ici, nous sommes dans une région superbe, n'est-ce pas ? Tout le bord de la côte, qui fait rêver, qui amène des gens régulièrement, qui sont même capables parfois de quitter un emploi qu'ils ont depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une grande ville à 300, 400 km d'ici, puis ils arrivent en septembre, octobre, s'imaginant trouver du travail très, très facilement. Et ils se retrouvent donc dans des situations un peu compliquées. C'est d'ailleurs une des tâches de Pôle emploi que d'expliquer aux gens d'être très, très vigilants par rapport à ça. Ma question, c'est, j'imagine bien évidemment que vous vous adaptez aux situations géographiques. Est-ce que le fait d'être en bord de côte, nous sommes dans une autre configuration que déjà si vous étiez à Dax ou sur Mont-de-Marsan ?
Je crois sincèrement que ça ne fait pas une grande différence. Moi, personnellement, j'habite, j'habite dans les Landes plutôt du côté de Dax que d'Ossegor. On n'a pas peur de faire des kilomètres. On s'adapte à toutes les situations parce que simplement, professionnellement, on s'est adapté à toutes les situations. C'est-à-dire Jean-Marc, qui était sur le terrain, un client reste un client. Donc quelqu'un que l'on conseille, qu'il habite à Dax, à Saint-Vincent-de-Tyrosse ou à Bayonne, on essaiera toujours de faire au mieux.
Le travail en équipe, vous connaissez ?
Un peu, oui.
Un peu, beaucoup. Comment ça se passe ? Parce que j'imagine qu'il y a des situations qui ne doivent pas être faciles tous les jours.
Mais vous parlez au sein de l'association ?
Oui, entre vous, là.
Ah ben, entre nous, c'est ce qu'a dit.
Entre les 13, je sais, tout à l'heure, on a bien entendu ce qui a été dit. Mais est-ce que c'est vraiment aussi une obligation, une nécessité ? Il faut absolument passer par là, si l'on veut.
Oui, mais je pense que Nicolas l'a dit, nous, en fait, c'est d'abord se faire plaisir. Parce qu'en fait, le bénévolat, l'engagement, etc., si on ne se fait pas plaisir, en général, ça ne dure pas très longtemps. Mais par contre, comme on le disait, par exemple, si on prend j'ai fait toute ma carrière en entreprise, et quand j'ai voulu accompagner des porteurs de projets, je me suis rendu compte que c'était ou des micro-projets ou des très petites entreprises. Or, moi, par exemple, je n'ai jamais eu à me préoccuper du meilleur statut de la société, de sa trésorerie ou de me payer mon salaire à la fin du mois. Et donc, ça apporte quand même un éclairage très particulier. Et donc là, par exemple, sur le cas auquel je pense, moi, j'avais donc fait appel à un collègue qui est dans l'association et qui avait, lui, créé son entreprise, qui avait été dans cette situation d'avoir à trouver le salaire de ses employés, etc. Bon. Donc, ce travail en équipe, il naît aussi en fonction des opportunités de travail, quoi. Mais après, il n'y a pas de ni de difficulté, ni de barrière, entre guillemets, à faire ce travail en équipe, quoi.
Ouais. Il faut savoir se remettre en cause, en permanence, aussi. En question, je veux dire.
Et puis, je crois que... On est 13 là dans la délégation, bon, comme disait Nicolas au départ, on fait ce qu'on a envie de faire, donc quand il y a quelque chose à faire, on se propose. Et puis bon, en général, il n'y a pas de difficulté. Quoi. Bon, si la partie éducation est une partie très compliquée parce qu'elle demande beaucoup de temps et beaucoup d'hommes. Quand on se déplace dans un lycée, on se déplace à 5, 6, 7, 8, 10 personnes.
Pour combien de gamins ? Enfin, de gamins, d'étudiants.
Pour une trentaine de gamins, ouais, par session.
Ah oui.
Oui, parce qu'on fait des jurys. Et les jurys, on les fait à deux. On n'est jamais tout seul en face d'un élève ou d'une élève. Donc, on est deux en face. Donc, si vous prenez 5 ou 6 gosses, vous avez 2 x 6, 12 c'est personnes nécessaires. Donc, on fait appel aux bénévolats. Les premiers se déclarent, ils disent OK, on vient. Et puis, quand on manque un peu de personnel, bon, mais on dit on a encore besoin d'une ou deux personnes. Mais dans la délégation, jusqu'à maintenant, on a assumé à chaque fois toutes les missions que l'on nous a demandées en termes d'enseignement, et on les a assumées du début à la fin.
Non, mais ça ne pose pas de problème entre nous.
Non,
parce que, bon, en plus de ça, la plupart du temps, il y en a un de nous qui a une connaissance plus importante de tel ou tel sujet. Et il devient, j'allais dire, un peu notre mentor. C'est-à-dire que... il va nous amener vers des choses qu'on connaît peut-être un petit peu moins, mais qu'on va assumer vis-à-vis de l'extérieur. Par exemple, je reprends le cas de l'AFPA, dont je me suis personnellement beaucoup occupé, et maintenant, des conseillers EG qui ne l'avaient pas fait viennent avec moi pour vérifier qu'ils se sentent prêts à le faire et de voir un petit peu comment ça se passe, de telle façon à ce que l'on essaime, et au lieu d'avoir simplement deux ou trois conseillers qui puissent s'occuper de cette activité, eh bien nous soyons maintenant, on est au moins six à pouvoir le faire. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, et c'est pour ça, et Christian a raison de dire, il faut se faire plaisir, mais c'est vrai aussi que c'est un investissement personnel important, et on ne peut pas s'investir si on n'y prend pas, si on n'y prend pas du plaisir. Ça ne peut pas fonctionner sans ça.
Bien sûr, bien sûr. Parlez-nous de votre travail en direction des apprentis. Est-ce que c'est particulier par rapport à l'âge, par rapport aux études, par rapport au diplôme, par rapport à l'avenir professionnel?
Quand vous citez le terme d'apprenti, vous pensez à quelle population en particulier? Parce que la notion d'apprenti, alors, ça peut être très variable.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Exact. Alors moi je pensais à des apprentis, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas pu forcément continuer les études bien longtemps et qui sont apprentis, plombiers, électriciens, voilà, et qui songent éventuellement à monter une entreprise. Mm-hmm. Mais là, pour l'instant, ils ont un peu les mains dans le cambouis et ils ne savent pas trop, quoi. Hein.
Ben, vous avez résumé la situation en disant ils ne savent pas trop. C'est le grand, grand problème que nous avons, parce que lorsqu'on en est, par exemple, que ce soit dans des lycées où on est avec des secondes ou des premières, et quand on fait le tour de la classe en disant qu'est-ce que vous souhaitez faire, alors qu'ils ils se destinent à faire des bacs pro, hein, donc ils sont dans des secteurs, des filières bien spécifiques. Il y a au minimum un tiers de ces jeunes qui nous disent « je ne sais pas ». Donc, on se retrouve avec des jeunes qui sont dans une filière...
Par défaut.
Oui. Ce qui pose évidemment de gros problèmes pour eux et pour nous. Parce que comment voulez-vous conseiller des jeunes qui soient apprentis ou de futurs apprentis sur des sujets qu'ils non seulement ils ne maîtrisent pas, mais ils ne sont même pas sûrs de vouloir le faire. On n'est pas avec des jeunes qui veulent devenir meilleurs ouvriers de France. C'est pas du tout. En tout cas, nous ne les rencontrons pas. Donc, ça c'est clair. On fait, j'allais dire, avec les moyens du bord, de leur bord à eux. Mais on essaye de leur faire comprendre un certain nombre de choses de ce que sera leur vie professionnelle, parce que beaucoup n'en ont pas d'idée. Ils n'en ont pas d'idée. Et ça pose quand même un tiers qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est beaucoup.
Le monde de l'entreprise, il le découvre avec vous. Vous avez le sentiment qu'il le découvre avec vous en discutant.
Moi, personnellement, je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus dans ce domaine. Mais par contre, il faut que l'éducation nationale et nous, par exemple, y trouvions un intérêt mutuel. Mais autrement, je pense qu'il y a beaucoup à faire sur ce terrain-là. Parce que les jeunes, effectivement, quand on les rencontre, ils connaissent pas, ils n'ont aucune idée réelle de ce qu'est l'entreprise, quoi.
Il y a quand même un point qui est, depuis quelques années, on s'en est aperçu, vraiment très valorisant, c'est l'alternance. Là, c'est vraiment un domaine où, on dit toujours que les Français sont toujours en retard, par rapport à l'Allemagne notamment, mais là, maintenant, l'alternance, sur tous les jeunes que l'on voit et que l'on suit, il y a au moins 50 ou 60% qui font leurs études en alternance. Et là, ils ont l'occasion, effectivement, ils n'ont pas besoin de nous, pour découvrir ce que c'est que l'entreprise. Mais l'entreprise, ça peut être une entreprise où il va y avoir deux ou trois compagnons. Il ne faut pas toujours penser à nos grands groupes industriels. Ici, ce sont des TPE essentiellement, mais ce sont des entreprises. Et grâce à l'alternance, non seulement ils découvrent l'entreprise, mais très souvent, s'ils sont plutôt bons, ils seront embauchés un petit peu plus tard dans cette entreprise.
Ouais. Tout le monde est gagnant, là.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Et le jeune, et l'employeur, et le patron. Ouais.
Pourvu que le jeune s'accroche.
Oui, alors attendez, allez-y.
Eh bien, tout simplement, c'est que, tout à l'heure, Jean-Marc disait par défaut, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans une entreprise en alternance par défaut, parce que je n'ai pas trouvé autre chose, ou j'ai été prise dans une entreprise qui ne m'intéresse pas. Parce que là, c'est du perdant-perdant dans tous les cas. Donc, si le jeune s'accroche, s'il est intéressé, et s'il a un patron qui est un bon patron dans le sens mentor, là, c'est du gagnant-gagnant.
Tout est possible.
Là. Absolument.
Nicolas, Christian, Jean-Marc, de l'association EG, Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise, 1982-2022, 40 ans au service des territoires. Messieurs, tout à l'heure, vous nous avez parlé donc des associations avec lesquelles vous travaillez en synergie. Il y a également aussi, je suis allé voir ça sur le site, une pléiade de partenaires. Vous travaillez avec plein de monde, les ministères, Pôle emploi. J'aimerais que vous nous disiez, que vous nous fassiez partager ce travail que vous faites avec les partenaires. Parce que j'imagine qu'ils ne sont pas là uniquement pour faire joli, ou peut-être aussi pour vous donner un peu d'argent. Mais sur le terrain, concrètement, est-ce que vous avez l'occasion, effectivement, de... Enfin, je ne sais pas, là, je vais citer quelques noms. Le CCI de France, bon, ça, il n'y a pas de souci. France Bénévolat. Qu'est-ce qu'il y a ? Initiative France. Il y a G2R. Il y a le ministère. Voilà, c'est écrit tout petit, j'arrive pas à le lire.
Enfin, voilà. Par contre, pour vous aider, on peut parler des derniers partenariats qui ont été noués, puisque l'année dernière, l'association a signé des partenariats, donc avec l'AFPA, on en a un peu parlé.
Ouais.
Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, mais qui se met en place, où l'AFPA est très, très demandeur, entre guillemets, de l'expérience des conseillers, et puis de l'investissement, entre guillemets, que ça représente. Et aussi la CPME, donc la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Bon, on en a parlé dans le cadre des GPA, c'est-à-dire pour aider les entrepreneurs en difficulté, quoi. Donc ça, c'est les deux derniers pour illustrer un petit peu les partenariats, parce que ce n'est pas une situation figée, c'est quelque chose qui se renouvelle en fonction des intérêts de la période, quoi.
Et on a des réunions régulières avec ces gens-là. Par exemple, la dernière pour ce fameux GPA 40, j'ai une réunion la semaine prochaine avec la CPME, parce que on a signé des accords. Maintenant, il va falloir les développer, parce que ça ne se fait, surtout quand on parle d'entrepreneurs en difficulté, on ne peut pas faire n'importe quoi. Là, il y a une responsabilité. Je veux dire, à partir du moment où nous venons en aide, ça signifie que nous prenons et nous acceptons une certaine responsabilité en termes de conseils. Certes, on dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ceci étant, lorsque nous donnons un certain nombre de conseils, on s'engage intellectuellement de notre côté. Donc c'est vrai que ce partenariat doit être fait sérieusement. Il y a ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte pour des entreprises qui ne vont pas bien. Ça va être le fisc, j'ai pas d'exemple comme ça, mais je veux dire, un certain... Bon, ça reviendra. Mais
Vous pouvez conseiller, par exemple, quelqu'un pour aller négocier, renégocier avec le banquier, par exemple ?
Alors, oui, mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le banquier qui alertera le GPA en disant « J'ai un client, il va pas bien ». Donc, c'est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. C'est-à-dire que l'entrepreneur ne va pas venir nous voir directement. Il va, petit à petit, être amené à avoir des discussions avec nous, mais au travers de ces fameux lanceurs d'alerte qui seront indispensables à trouver, à mentorer d'une certaine façon, puisqu'il va falloir leur expliquer comment fonctionnent ces fameux GPA. Donc tout ça, c'est un boulot qui est à mettre en place et qui, bien évidemment, prend du temps pour des bénévoles comme nous.
Alors justement, ça représente en gros, en moyenne, à la louche, je sais bien que vous êtes trois, peut-être que c'est trois configurations différentes, mais par semaine ou par mois, combien d'heures de bénévolat?
Alors je ris, Jean-Marc rit aussi, parce que Jean-Marc était avant le délégué territorial. Et puis bon, il y a des changements, puisque tous les trois ans on change. Et on m'avait dit, mais pourquoi tu ne veux pas devenir délégué? Alors je ne connaissais pas bien le boulot, et j'avais dit, mais ça prend du temps. Oh non, tu verras, c'est...
Bon, on connaît la chanson.
Voilà, c'est cela. Et ma femme me dit, tu peux sortir de temps en temps, DG, parce qu'on a d'autres trucs à faire. Donc voilà, ma réponse, vous l'avez.
On a compris.
Non, bah, alors, après, c'est oui, très variable.
Hein, c'était pas une savonnette que j'ai donnée à Nicolas.
Non, je l'ai prise avec plaisir.
Quand j'étais délégué territorial à l'époque, effectivement, on avait moins d'activités que l'on en a aujourd'hui. Voilà, pour être clair. L'AFPA qui s'est greffé là-dessus, enfin plein de choses. Et Nicolas, il met plus que du sien. Monter des diaporamas complets pour aller à l'AFPA après derrière, bon, ça prend du temps, quoi. Voilà. Donc moi, effectivement, à l'époque, je disais, oui, tu verras, bon, ça prend du temps, mais ça va, quoi. Bon, voilà.
Christian,
je fais mes excuses à Madame Villers.
Bon, en dehors de ça, pour ne pas effrayer des personnes qui voudraient nous rejoindre, qui vont se dire, ah, mais moi, si je rentre dans cette association, je vais être complètement absorbé, etc. Ouais. Bon, la règle, c'est que c'est un choix. Donc vous pouvez très bien être très sollicité pendant une période, et puis vous aménager une période de vacances dans laquelle vous ne voudrez pas du tout parler de ESG, et ça sera respecté, quoi. Donc c'est quand même quelque chose... La grosse différence par rapport à une période d'activité professionnelle, justement, que c'est un choix d'activité.
Comment s'effectue le recrutement?
Alors le recrutement s'effectue de toutes les façons possibles. Tout à l'heure, Christian, je préférais qu'il en parle d'ailleurs parce que c'est notre grand maître à trousse en ce qui concerne LinkedIn, que certains d'entre nous, dont moi, maîtrisons moins bien, c'est vrai. Mais en dehors de cela, dont il parlera, il y a le bouche-à-oreille, tout bêtement. C'est que, compte tenu du fait que l'on est retraité, on rencontre forcément d'autres retraités à qui nous avons l'occasion de pouvoir en parler. Il y a des... C'est pas des salons professionnels, comment ça s'appelle
les forums.
Les forums.
Voilà,
il y a des choses qui se passent à Anglette. Normalement, il y en a aussi à Dax. Ça sera l'occasion d'ailleurs d'essayer d'avoir un stand.
Forum des associations.
Les forums des associations. Avoir un stand pour pouvoir expliquer. Parce que c'est vrai, et Christian a parfaitement raison quand il dit vous donnez ce que vous voulez donner. En revanche, si vous donnez, vous donnez. On ne peut pas faire partie des G en touriste. Ça c'est quand même quelque chose qui est important. Si on s'engage à dire je vais m'occuper de telle ou telle mission, moralement, oui, c'est un engagement de le faire. Ceci étant, si pendant trois mois on veut se mettre de côté, il n'y a aucun problème. Donc en ce qui concerne le recrutement, ça va être un recrutement multicanaux. Nous essayons dans la mesure du possible d'utiliser les nouvelles ressources technologiques, mais c'est vrai que souvent pour parler de ce genre de choses, le face-à-face est plus convivial et peut-être plus facile.
Déjà, vous pouvez candidater si vous êtes volontaire. Enfin, d'ailleurs, que vous soyez candidat pour rejoindre EGE en tant que conseiller ou vous soyez demandeur d'une prestation, vous pouvez le faire au travers du site de EGE. Je pense qu'on y reviendra à la fin de l'intervention.
Oui. Alors, c'est presque la fin. Vous pouvez déjà donner le site. Ce sera fait. On n'aura pas perdu.
Alors, vous frappez EGE, donc EG2E, .asso.fr. Et donc sur le site de l'association, vous allez découvrir, vous allez pouvoir...
Toutes les régions, il y a absolument
voilà, toutes
tout.
Les régions, ouais, et ouais. Vous allez pouvoir candidater ou demander une intervention. En dehors de ça, effectivement, moi je crois... Alors, très honnêtement, quand j'étais en activité professionnelle, je n'étais pas sur LinkedIn. Mais j'y trouve un intérêt, et il y a beaucoup de gens, y compris le président de l'association, qui est sur LinkedIn. Et donc, il y a quand même pas mal d'échanges. Et donc, on peut aussi accéder à nos services ou nous suivre, tout simplement, voilà, sur le réseau. Alors, de ce point de vue-là, on a créé une page qui s'appelle Pays Basque, Landes Océan, sur lesquels on essaie de publier un certain nombre d'informations sur l'association et plus particulièrement sur la délégation. Voilà. Donc, sans être, on n'est pas tous les jours sur les réseaux sociaux, mais on y est aussi. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses.
Ouais, de toute façon, c'est incontournable, hein, les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, quelqu'un peut être très, très professionnel à travers son boulot. Si malheureusement, il passe à côté de cela, il y a effectivement du bénévolat qu'il ne peut plus faire, ou c'est plus possible, quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a quand même malgré tout une sélection, entre guillemets, pour les bénévoles? Parce que vouloir donner, c'est bien, mais être en mesure, en capacité de le faire, c'est encore mieux. Vous voyez ça au fur et à mesure, en fonction...
La sélection, elle se fait, j'allais dire, naturellement. Oui. J'ai un exemple d'un garçon qui nous avait rejoint il n'y a pas très très longtemps. Et en fait, de lui-même, il a préféré quitter l'association, non pas parce qu'il ne la trouvait pas agréable, mais simplement parce que, par rapport à ses propres activités, en termes de planning, de timing, c'était trop compliqué. Et donc, il m'a dit, finalement, je ne crois pas pouvoir assurer ce que vous demandez. Donc, il a préféré partir. Mais nous ne mettons pas de... Il faudrait vraiment des cas extrêmement particuliers, je ne vois pas très bien lesquels, qui nous empêcheraient d'avoir un bénévole. On a plutôt tendance à être toujours très content de recevoir et de voir des nouvelles têtes.
À part le fait d'être en retraite, c'est-à-dire de plus être en activité, de plus être en concurrence avec une activité marchande. Quoi.
Bien sûr. Bien sûr. Eh bien, Georges, c'est bien qu'on n'a jamais tout dit, hein, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Alors, en tout cas, messieurs, merci de nous avoir consacré cette heure. Merci aussi pour le travail que vous faites, hein, en direction des petites et moyennes entreprises, des gens qui sont en recherche d'emploi, qui à un moment donné ont été un peu largués, hein, et puis qui reviennent, qui tentent de revenir. Donc votre association EG, Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise, 40 ans, ça fait déjà 40 ans hein, que vous existez, et nous étions donc en compagnie de Jean-Marc, de Christian, de Nicolas, et vous allez nous redonner tout de suite, avant que nous nous quittions, le site de votre association, Christian.
EGE, donc 2E, point asso, A2SO.
À bientôt, merci.
Merci.
Merci. Merci. Alors rassurez-vous, moi je rajoute mon grain de sel à la fin comme toujours. Rassurez-vous, là, nos trois invités sont en pleine forme, ils sont tout bronzés, ils sont tout gaillards. Donc vous pouvez rejoindre cette association sans souci. Bye bye tout le monde.
Ciao.